Je me suis donc replongé dans ce récit de l'entretien de Jésus avec Nicodème en Jean, au chapitre 3. Et il y a une curiosité qui a attiré mon attention. C'est que Jésus répond là à une question qui ne lui est pas posée. En effet, dans le texte, il est écrit « Jésus répondit », mais avant le « Jésus répondit », il n'y a aucune question. Alors, du coup, je me suis dit « Comment se fait-il ? » Nicodème arrive en disant à Jésus « Je sais que tu es un docteur savant et que personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et il est écrit « Jésus répondit ». Et donc, quelle est la question ? Pour ça, je me suis dit « Il faut que je regarde plus précisément comment Jean nous présente l'affaire ». On nous dit plusieurs choses. D'abord, on commence par nous dire que ce Nicodème est un chef parmi les pharisiens. Pour moi, ça veut dire qu'il était un expert dans la tradition juive, expert de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament, donc quelqu'un qui connaît parfaitement la tradition rabbinique, le mode de pensée des rabbins de cette époque, et donc il fonctionne dans un certain type de réflexion particulier que partageait Jésus, qui avait apparemment, nous dit-on aujourd'hui, lui aussi eu une instruction rabbinique. Donc, je sais déjà quelle langue il parle. Et donc, autrement dit, ce qui semble une affirmation dans la bouche de Nicodème, une flatterie, en fait, était un questionnement. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le nom même de Nicodème est un questionnement. Pourquoi l'Évangile nous dit-on le nom de l'interlocuteur de Jésus ? En fait, on s'en fiche un peu. Eh bien, parce que Nicodème, c'est un nom dont on ne sait pas ce qu'il veut dire. Parce que démos, c'est le peuple, ça on sait, et nikein en grec, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça veut dire diriger, soit ça veut dire asservir, accabler, et voire même persécuter. Et donc, Nicodème, est-il quelqu'un qui est là pour diriger le peuple, ou est-ce qu'il est là pour asservir le peuple ? Et je me rends compte tout à coup que Nicodème, comme nous tous, peut-être pour le meilleur ou pour le pire. Et la question, c'est comment aller du bon côté ? Alors, il va demander à Jésus, en tant qu'enseignant, dit Daskalos, donc il sait qu'il a quelque chose à lui dire. Après, Nicodème dit à Jésus, « Nous savons que personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ah, voilà de quoi il est question de signes. Vous le savez sans doute si vous fréquentez nos assemblées, dans Jean, nos traductions mettent « miracle ». Aux noces de Cana, on dit « c'est le premier miracle qu'a fait Jésus ». Et vous le savez, j'imagine, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas du tout écrit « miracle », mais il y a écrit « signe », « séméion » en grec. Et donc, il est question de signes. Alors, un signe, en soi, est aussi une question. Parce qu'un signe, la question, c'est ça indique quoi ? On me montre un signe, je ne comprends pas le signe, et donc je dis, il y a des signes, mais ça indique quoi ? Donc voilà peut-être ce que dit Nicodème à Jésus, tu nous montres des signes, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Or, des signes, dans l'évangile de Jean, autour de cette histoire, il y en a deux. Le premier signe, dont il est dit c'est le premier signe, c'est, pour vous, Jimmy et Michel, le mariage des noces de Cana. Jésus change l'eau en vin et on nous dit c'est le premier signe. Ensuite, il y aura, l'évangile de Jean va dire explicitement, le deuxième signe, il n'y en aura pas trois, mais premier signe, deuxième signe. Le deuxième signe, c'est la guérison du fils d'un serviteur royal, en Jean 4, 43. Donc ce sont les deux signes numérotés, le premier et le deuxième, plus quelques autres petits signes, d'entretien en cours de route. Alors par ailleurs, quand on parle de signes dans la tradition juive, je vous ai dit, Nicodème était un spécialiste de la tradition juive, quand on parle de signes dans la tradition juive, ce n'est pas n'importe quoi. Et il faut donc voir où apparaît cette histoire de signes dans la Torah, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La recherche est assez facile à faire, le mot s'y trouve. La première occurrence dont la tradition rabbinique dit que le premier endroit où le mot apparaît dans la Bible, c'est l'endroit le plus essentiel d'où tout découle. Donc, où apparaît le mot signe pour la première fois dans l'Ancien Testament en grec? C'est en Genèse 1, verset 14, où on nous dit que Dieu crée le monde et que là, il crée deux luminaires, deux astres, le soleil et la lune, pour être des signes, pour indiquer les temps et pour indiquer, en fait, quand il fait nuit et quand il fait jour. Tiens, ça m'intéresse, ça, parce que le texte nous dit que Nicodème vient voir Jésus de nuit. Alors, voilà la nuit qui rapplique une deuxième fois. Et quand les gens disent « Nicodème, il est venu de nuit, parce que sans doute il avait peur des autres, pour pas se faire voir, etc. » Taratata. Il vient de nuit, parce que la nuit, dans l'Évangile, surtout chez Luc, c'est ce qui s'oppose à la lumière. C'est-à-dire la nuit, c'est la nuit du doute, de l'erreur, de l'errance, de l'épreuve, du noir. Et effectivement, et Jésus qui est la lumière du monde. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, de la recherche de la lumière. Il y a un signe qui permet de discerner la lumière. Et dans le prologue de Jean, texte que vous aimez particulièrement et moi aussi, il est écrit au verset 5, « Tophos sentiscotia feinic et uc avelaven » La lumière brille dans les ténèbres et ils, les braves gens, ne l'ont pas reçu. Donc ce n'est pas que la lumière n'ait pas brillé, mais c'est que les gens ont du mal à discerner la lumière, ne l'ont pas reconnue. Donc Nicodème est dans la nuit, il est dans le noir et il cherche un signe qui lui permette de trouver la lumière de la vie. Comment découvrir la lumière quand on est dans le noir? Voilà la question qui est la base de toute cette histoire. Ensuite, dans l'Ancien Testament, d'autres signes apparaissent. En général, à chaque fois qu'il y a une alliance, on nous dit qu'il y a l'histoire de Noé, hop, le mot signe revient à l'appel, on dit Dieu met dans le ciel un arc, signe de son alliance. Après, Dieu va faire alliance avec Abraham et on va dire tu feras la circoncision, signe de cette alliance. Et après, Moïse va libérer le peuple d'Égypte et Dieu lui dit « Tu iras adorer sur le Sinaï avec la loi et ce sera le signe de mon alliance. » Donc à chaque fois qu'il y a un signe de Dieu, il y a une alliance, c'est-à-dire un lien, une relation entre Dieu et le peuple, Dieu qui demande quelque chose au peuple et qui lui offre quelque chose. Et donc Nicodème voit des signes. Il se dit, s'il y a des signes, c'est qu'il va se passer quelque chose. Il y a une nouvelle alliance qui se profile, un nouveau mode de relation à Dieu, si vous voulez. Et lequel? Voilà la question. Alors, ce n'est pas tout, parce que je reparle sur mes signes dans l'Ancien Testament. Là où il y a multitude de signes, c'est dans l'histoire de Moïse. Moïse sera le plus prolifique des signes avec son bâton magique. Et en particulier, les 10 plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, vous savez, le peuple est donc en Égypte et Pharaon refuse de laisser sortir le peuple d'Égypte et Dieu dit à Moïse, tu vas faire des signes, 10 signes pour essayer d'expliquer au Pharaon que ce serait pas mal qu'il laisse sortir le peuple. 10 signes pour expliquer au Pharaon qu'il serait bien qu'il ne soit pas un oppresseur de peuple. Tiens, un Nicolaos, je vous ai dit, Nicodémos par exemple, c'est la même chose, un Nicodème, celui qui opprime le peuple, que le Pharaon cesse d'être un Nicodémos, un oppresseur de peuple, pour être un bon Nicodème, celui qui gouverne en libérant, c'est-à-dire celui qui donne la liberté. Donc voilà ces signes qui permettent déjà de montrer que le but, c'est d'arriver à une libération et à une nouvelle relation à Dieu qui n'est pas dans l'asservissement, mais qui est dans la libération. Après, les plaies d'Égypte, ce sont des signes terrifiants et négatifs et qui, en gros, montrent que si on n'obéit pas à Dieu, ça entraîne des tas de problèmes. Il y a les 10 plaies, on pourrait les reprendre, ce serait un autre sujet de prédication, je ne peux pas le faire, mais tenez, je vais vous prendre juste la première et la dernière des plaies d'Égypte. La première plaie, c'est... la Bible est absolument géniale, j'allais dire tombé sur le derrière en découvrant ça. La première plaie d'Égypte, c'est l'eau changée en sang. Or, que fait Jésus dans le premier signe de Jean ? Il change l'eau en vin. Or, vous savez très bien que dans la Bible, le lien entre le sang et le vin, Jésus, dans son dernier repas, tend la coupe et dit « Buvez, ceci est mon sang ». Et donc, oui, la première plaie d'Égypte, Moïse change l'eau en sang, et dans une chose dramatique, parce que le Nil est transformé en sang, tous les poissons meurent, c'est épouvantable. Donc voilà le signe de l'Ancien Testament. Et Jésus revisite ce premier signe, et au lieu de le faire dans une situation de catastrophe, il change non pas de l'eau en sang, mais de l'eau en vin, pour qu'on soit dans un mariage, dans une fête, dans la joie et dans la vie. C'est-à-dire qu'il réinterprète ce signe, et voyez vers quoi on se dirige. Une religion qui n'est plus celle de la terreur, de la menace, de l'angoisse et de la punition, mais dans une religion au contraire qui est celle de l'ouverture et de l'union mystique avec Dieu. Et la dernière plaie d'Égypte, c'est laquelle ? C'est celle où il tue tous les enfants premiers-nés. Et je vous ai dit quelle est le deuxième signe donné par l'évangile de Jean, c'est Jésus qui guérit l'enfant d'un serviteur du roi. Et donc voilà que Jésus reprend la dernière des plaies d'Égypte, mais une fois de plus en l'inversant. Il n'est plus question là de tuer un enfant, de tuer une descendance, mais au contraire de sauver une descendance. Et donc vous voyez que Jésus reprend en fait exactement ces anciens signes. Et Nicodème dit, mais là il y a un truc qui se passe. On est vraiment dans une nouvelle religion. On est dans une religion qui n'est plus celle de la menace, celle de la peur, mais au contraire celle de la joie, de la relation, de la fête, de l'union et de la fécondité et d'une religion qui sauve la vie. Donc il ne s'agit plus de tout cela, mais de changer. Il sauve la vie d'un enfant. Et donc Jésus fait les mêmes signes que Moïse, mais inversé. Ce n'est plus la mort, mais c'est une promesse de vie. Ce n'est plus une menace, mais c'est une grâce. Et puis par ailleurs, c'est aussi une nouvelle religion qui a une dimension universaliste. Parce que, bon, quand je dis la dernière plaie d'Égypte, c'est la mort des enfants, de plus ou moins, parce qu'il y a tout un stratagème qui est celui de Pâques, que vous connaissez. Dieu a dit, vous allez sacrifier un agneau, vous allez peindre les montants de vos portes avec le sang de l'agneau, et à la suite de ce sacrifice, vos enfants seront sauvés. Donc tout le monde ne meurt pas. Mais là, un, il n'y a plus de sacrifice, et ça j'y tiens beaucoup. On est dans une religion où la notion de sacrifice n'existe plus. Ça a été repris malheureusement par la tradition chrétienne qui nous a dit « Jésus, sacrifice offert ». Non, il n'y a plus de sacrifice et on n'est pas dans une religion du sacrifice. On est dans une religion de l'amour, de la grâce et du don, pas dans le troc, pas dans la négociation ou dans le marchandage avec Dieu. Et donc plus de sacrifice et puis surtout, ça n'est plus réservé aux Juifs puisque certainement que ce que je vous ai dit, ce serviteur royal dont Jésus guérit le fils était forcément un non-juif, un romain. Et donc on est dans une religion qui effectivement s'ouvre à tous, sans condition et sans sacrifice. Alors voilà les signes reconnus par Nicodème. Il voit déjà poindre quelque chose de nouveau, une nouvelle religion, une nouvelle relation à Dieu, une nouvelle alliance qui se prépare. Et donc Nicodème est à même de se dire « Mais Seigneur, tout ça, ça nous débouche vers quelle alliance ?» Ah oui, parce qu'il y a encore un signe que j'ai oublié de vous dire. Je l'évoquais tout à l'heure un peu, en Exode 3:12. Quand Dieu dit à Moïse, cette chose assez curieuse, il dit « Je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Et donc le signe donné à l'avance, c'est que le peuple va recevoir la loi sur le mont Sinaï. Et donc Nicodème dit: « D'accord, je vois en toi tous ces signes importants. » Donc dit, si Dieu n'est avec toi, personne ne pourrait faire ces signes. C'est pas qu'ils se disent: « Oh là là, il est formidable, il change l'eau en vin, vraiment il doit être divin. » Il dit tous ces signes, c'est tellement les signes de Moïse qu'on est en train de refaire l'histoire d'Israël. Et donc tout ça, dit Nicodème, ça doit aboutir au signe ultime qui est celui d'une nouvelle relation à Dieu. Moïse a donné la loi. Et maintenant, de quoi s'agit-il? Pour aller où? Et quel est le nouveau Sinaï? La réponse de Nicodème va être absolument révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que Nicodème va se perdre dans l'histoire, il va rien comprendre, et finalement il va disparaître du dialogue jusqu'à ce que Jésus continue son discours tout seul. C'est l'histoire de la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau et d'en haut. Et donc il n'est plus question, comme au Sinaï, d'obéissance, il n'est plus question d'une religion d'observance, de règles, de respect d'un code moral pour arriver là à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une refondation de l'être. Cette nouvelle naissance, être une nouvelle créature, se renouveler de l'intérieur, naître de Dieu, naître de l'Esprit, c'est important. Et on dit à ce sujet souvent, et c'est pas faux, que Jésus a en fait remplacé la notion d'obéissance morale dans la religion par une théologie de la conversion intérieure. L'important n'est pas que vous fassiez des bonnes œuvres impliquées par une loi, mais l'important c'est que vous changiez votre cœur de l'intérieur. L'important c'est une religion de l'intime pour se retourner vers Dieu. Mais en fait, et là j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, vous voyez, après 40 ans de théologie, on nous dit et on nous rabâche que la théologie de l'Évangile est une théologie de la conversion. Or, j'ai découvert que le mot conversion, épistrophie ou repentance, métanoïa en grec, ces deux mots sont totalement absents de l'Évangile de Jean. Il n'y a pas dans l'Évangile de Jean de conversion ni de repentance, cela ne se trouve que dans Matthieu, Marc et Luc. Et Jean n'est pas dans une logique de la conversion, mais dans une logique de la nouvelle naissance. Et c'est assez différent. C'est-à-dire non pas de dire « allez, je change ma vie », non, de refonder sa vie sur autre chose. Et donc voilà la question fondamentale. Qu'est-ce qui est pour moi la source essentielle de mon être? Et quelle est où est-ce que je cherche ce qui va donner sens à ma vie? Aller se brancher sur une source vitale nouvelle. Ma naissance physique, je la tiens de ma mère. Et là, le peuple aussi, d'ailleurs chez les Juifs, comme les Juifs pharisiens, comme Nicodème, ils considéraient qu'on appartenait au peuple élu parce qu'on avait des parents ou une mère juive comme aujourd'hui. Et donc Nicodème attend là de nouveau quelque chose de génétique, si vous voulez, un peuple. Et en fait, Jésus dit non, ça n'a rien de génétique, c'est tout à fait spirituel. Nicodème reste dans une logique génétique, faut-il entrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Mais non, Jésus dit, ça n'est pas ça, pas du tout, on n'est que dans le spirituel. Le but, ce n'est pas d'être enfant du peuple, ou même pas non plus d'être enfant de la loi, mais d'être directement enfant de Dieu. Aujourd'hui, le jeune garçon juif qui accède à la maturité spirituelle, et on dit qu'il fait sa bar mitzvah, fils du commandement. Jésus, voyez, renouvelle la chose radicalement. Il dit, vous n'êtes pas fils du commandement, mais vous êtes appelé à être fils de Dieu, fils de l'Esprit. C'est autre chose. Refonder sa vie, refonder son être, recentrer son être sur une base différente, non pas sur refonder, non pas fonder son être sur le monde. Le mot « monde » dans Jean désigne tout ce qu'il y a de proprement matérialiste, si vous voulez. Donc non pas sur le monde matériel, des ambitions terrestres, des désirs matériels, mais refonder sa vie sur l'Esprit et sur la nature même de l'esprit. La nature de l'esprit, vous en trouvez, j'aime beaucoup ce passage dont j'oublie toujours la référence, dans une épître de Paul où il parle des fruits de l'esprit. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la persévérance, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, ça ce sont les fruits de l'esprit et voilà sur quoi Jésus nous invite à fonder notre vie. Et du coup, ça m'invite à faire une remise en cause de moi-même. Vous êtes mariés il y a 27 ans, Jimmy et Michel. Pour ma part, du haut de cette chaire, j'ai prêché il y a 30 ans et 15 jours lors de ma consécration comme pasteur. Et ce jour-là, j'ai essayé d'expliquer ce qu'était pour moi la foi. Et j'ai dit que la foi était un peu comme un plus, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai ma vie, et ma vie me convient très bien, et je peux vivre sans Dieu, je pourrais vivre sans la foi, mais la foi m'apporte quelque chose de plus, de l'ordre de l'extraordinaire. Elle apporte une joie, une profondeur, une dimension qui est tellement merveilleuse que je ne voudrais pas m'en priver. Mais cela dit, c'est donc quelque chose que je rajoute à une vie qui déjà ne me pose aucun problème. Et un pasteur auquel je rends hommage aujourd'hui défunt m'a dit « Ta foi ne me convient pas très bien parce que tu en fais quelque chose comme une cerise sur le gâteau. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais en fait, il avait raison. La foi n'est pas la cerise sur le gâteau, ce que je rajoute dans ma vie comme une sorte d'ornement qui embellit mon existence, mais la foi, d'après Nicodème, c'est le gâteau sur lequel vous êtes invité à poser la cerise de votre vie. Il faut mettre les choses dans le bon sens. Et donc, il faut naître d'en haut, naître de nouveau, naître d'esprit et naître de Dieu. Et le culte qui est donc demandé, voilà cette nouvelle alliance, ce nouveau signe extraordinaire, n'est pas un culte d'obéissance, d'observance, de menace, de punition, de je ne sais quoi, mais simplement un culte de régénérescence profonde de l'être, et c'est justement naître d'esprit et non de la chair. Je comprends à peu près ce que veut dire Jésus, mais néanmoins, Jésus a après cette parole mystérieuse qui a prolongé ma réflexion. Il dit « Si je vous dis les choses terrestres, déjà vous ne comprenez rien, alors comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Je crois comprendre ce que veut dire Jésus, parce que en même temps j'entends votre objection possible de dire « Fonder son existence sur le Christ, d'accord, sur l'Esprit, admettons, renaître d'en haut, naître de Dieu, être nouvelle créature, mettre Dieu comme fondement de son existence, d'accord, mais dans le fond, qu'est-ce que l'Esprit ? Qu'est-ce que Dieu ? Alors Jésus, en gros, nous dit là, écoutez, je vais avoir du mal à vous expliquer, parce que déjà que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit jusque-là, donc si je commence à vous expliquer qui est Dieu et qui est l'Esprit, je vais vous perdre. En gros, il dit, vous ne comprendrez pas, et ce n'est pas très grave peut-être que vous ne compreniez pas, parce que l'important, c'est simplement de refonder sa vie sur l'esprit et non pas sur vos désirs terrestres. Et tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, alors vous pourrez rentrer dans le royaume. Mais quant à vous parler de Dieu, ça va être compliqué. Donc Jésus renonce en fait à nous expliquer clairement ce qu'est Dieu, ce qu'est l'Esprit, et il dit « mais en fait, ce n'est pas grave que vous ne compreniez pas tout sur Dieu. Ce n'est pas très grave, parce que, dit-il un peu plus loin, vous savez, l'Esprit souffle où il veut, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais on entend sa voix. Et donc Dieu, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va, l'Esprit, je ne comprends pas trop le début et la fin, mais j'expérimente, voilà. » J'expérimente quelque chose, moi, aujourd'hui. Et je ne peux pas tout vous dire. Moi, je sais l'expérience de l'Esprit, mais vous dire exactement ce qu'il est, je n'en sais rien. Mais par contre, je l'expérimente. On entend sa voix. Tiens, sa voix. La voix, c'est une parole. Cette parole du Christ. Et je comprends cette parole du Christ qui me transforme. Ça, c'est mon expérience personnelle. Alors, cette expérience personnelle, vous pouvez la vivre à votre manière. Soit vous avez une véritable expérience mystique de Dieu. Ça arrive, heureusement. Il y a des gens qui ont une foi comme ça. C'est-à-dire, vous savez ce que signifie pour vous, indépendamment des grands discours théologiques, ce qu'est l'amour de Dieu pour vous. La grandeur, cette grandeur infinie qui nous dépasse, qui nous soutient, cette présence qui nous accueille et qui nous aime. Et même si vous ne comprenez pas tout de Dieu, vous pouvez dire, je sais moi que Dieu m'aime. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est comme ça. Ou alors si vous n'êtes pas mystique, pas très grave, vous pouvez dire, j'expérimente, Jean nous invite à le faire, j'expérimente cette présence de l'Esprit comme une parole, j'entends sa voix. La parole du Christ. Et j'entends, je vois dans cet évangile un texte unique, un texte infini, le texte le plus grand, le texte le plus beau, le plus profond de l'humanité, le texte le plus lu, le plus commenté, le plus édité depuis que l'homme est homme. Et ce texte-là, cette voix qui est dans ce livre, eh bien ce texte me dit quelque chose, me bouleverse, il change ma vie. Et c'est lui sur lequel je dis, je veux fonder mon existence sur ce texte, parce qu'il y a là quelque chose de merveilleux. La prédication du Christ est, je dirais, la base, le fondement, l'avenir de l'humanité. Sinon, on s'auto-détruira tous. Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur. Soyez serviteurs. Et l'essentiel, c'est la grâce. Donc cette parole existe et me fait vivre. Dieu, écoutez, je n'en sais rien, peu importe, si vous ne savez pas qui elle est, attachez-vous au Christ. Longtemps, moi-même, vous voyez, je suis dans les remises en cause aussi, j'ai lutté contre ce qu'on appelle le christocentrisme, en disant l'important, ce n'est pas le Christ, c'est Dieu. Mais finalement, vous pouvez être christocentrique, pourquoi pas? Vous attachez au Christ, si vous ne savez pas qui est Dieu, ce sera déjà pas mal. Christ vient d'en haut. Je ne sais pas ni d'où il vient ni où il va, donc allez, battez-vous sur la divinité du Christ, sur la procession des hypostases, ce que vous voulez. Alors là, je n'en ai rien à faire. Mais ce que je vois, c'est que ce Christ, quelle que soit sa nature, vient frôler mon existence. Il la touche, il la transforme, et j'entends dans sa parole une parole d'amour, une parole d'intelligence. Lors de mon catéchisme dimanche dernier, on parlait de Dieu, évidemment, c'est un peu le sujet, hein, avec les catéchumènes qui avaient 15 ans, et de la foi. Il y en a un qui m'a dit, c'est assez touchant, je veux dire, qui est Dieu? Il m'a dit, écoutez, je m'en fiche de qui est Dieu. Même s'il n'existe pas, je m'en fiche, mais laissez-moi ma foi. C'est pas idiot. Si votre foi vous rend bon, généreux, vous faites du bien, vous aide à vivre et vous rend actif et généreux dans ce monde, ben écoutez, changez rien. D'où ça vient? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas d'où vient l'Esprit, mais j'entends sa voix. Et il n'y a pas d'effet sans cause. Là, je suis très thomiste. Donc ma foi me transforme, ma foi me fait vivre, la foi en Dieu change le monde. Eh bien, vous me disiez qu'il n'y a pas de cause, j'en sais rien. Évidemment qu'il y a une cause. Quelle est-elle? Je n'en sais rien. L'Esprit, je ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va, mais moi, je vous dis, j'entends sa voix. Et cette parole me fait vivre. Ainsi en est-il de quiconque est né d'en haut, qui entend cette voix et qui, du coup, participe à cette réalité de l'Esprit, qui est de venir d'on ne sait où et d'aller où on ne sait pas où, non pas dans le sens que celui qui serait de l'Esprit, sa vie serait perdue parce qu'il va, il ne sait pas où, mais parce qu'elle serait absurde, mais parce que le sens de cette vie s'attache à un au-delà qui est plus grand que nous et que l'intelligence ne peut saisir, qui nous surplombe, qui nous dépasse et qui dépasse toutes choses qui sont dans le temps, qui est au-delà de toutes les épreuves qui peuvent être la mort ou la maladie, toutes choses qui nous réduisent à peu de choses. Il y a là, dans cet esprit, une réalité nouvelle, une réalité qui vient d'ailleurs et qui nous mène dans un au-delà que je ne comprends peut-être pas entièrement, mais que je saisis, dans lequel je veux mettre toute ma foi et duquel je veux renaître chaque jour pour une vie nouvelle. Amen.